Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadrap, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Zoé. Tenez-vous bien, car Zoé est française de nationalité, mais a vécu en Italie jusqu'à la fin de sa formation d'infirmière, avant de partir pour l'Espagne pour sa première expérience professionnelle. Un récit passionnant que je suis ravie de vous proposer aujourd'hui. Bonne écoute. Bonjour Zoé.
Bonjour Marielle.
Merci beaucoup de me recevoir chez toi pour cet enregistrement aujourd'hui. Alors Zoé, tu m'as contactée, mais ça fait pas mal de temps. Je crois que je reviens vers toi un petit peu plus tard, mais tu vas faire partie du fameux tour du monde des soignants dont je parlais dans les précédents épisodes. Alors voilà, j'ai déjà pu faire quelques pays, l'Allemagne, le Québec, etc. Et puis donc toi aujourd'hui, tu as une histoire très intéressante à nous raconter, puisque donc tu es de nationalité française.
Oui.
Tu es née en France, c'est bien ça?
Oui, exactement.
Ensuite, tu es partie très rapidement, mais tu vas nous expliquer faire tes études et tout ton cursus en Italie. Et aujourd'hui, tu exerces en tant qu'infirmière en Espagne.
Voilà, exactement.
Voilà. Alors, il y a plein de choses à raconter.
Oui.
Alors, je te laisse commencer, Zoé. Je te laisse te présenter.
Alors, je m'appelle Zoé, j'ai 29 ans. Comme tu as dit précédemment, je suis née en France. Mes parents sont français. Mais mes parents habitaient déjà en Italie au moment de ma naissance. Donc, on est retourné très vite en Italie. Et j'ai vécu mes premières 24 années en Italie, où j'ai fait toutes mes études jusqu'à mes études universitaires, où j'ai fait des études d'infirmière. J'ai eu mon diplôme en avril 2016, et 3 jours après, j'étais déjà à Barcelone.
Ah oui,
donc,
en effet.
Oui, j'ai fait très rapidement sur un coup de tête. Je n'ai pas vraiment réfléchi.
Et est-ce que pendant tes études d'infirmière, tu avais fait peut-être des stages à l'étranger ou comment t'es venue l'idée de partir en Espagne si vite?
Non, justement, j'y avais réfléchi beaucoup. Je voulais faire un Erasmus, mais les études d'infirmière, du moins en Italie, sont très concentrées. Donc, on pouvait faire des stages à l'étranger, mais ça voulait dire perdre un petit peu de temps dans tes études, dans tes examens. Donc, je m'étais dit, je vais me concentrer, je vais faire mes 3 ans. Et après, quand je serai libre, je partirai. Et donc, c'est pour ça que j'avais très hâte de finir et très hâte de pouvoir partir. Et j'en ai profité, oui.
Bah, t'as bien fait. Et comment se déroulent les études en Italie? Alors, du coup, je sais que t'as pas forcément la comparaison avec la France. Mais donc, en France, voilà, c'est 3 ans d'études avec cette alternance entre les stages et puis les cours théoriques à l'école. Est-ce que c'est différent en Italie?
Alors, non, c'est assez ressemblable. C'est 3 ans aussi. Et il y a des cours, des stages, des examens. Tout est très concentré. Par exemple, l'Espagne, c'est différent parce que c'est 4 ans. Ça, je trouve ça mieux parce que c'est un petit peu plus espacé. Et moi, pour l'anecdote, par exemple, ici, j'ai côtoyé beaucoup d'infirmières, de jeunes étudiantes en école d'infirmière ici en Espagne, et toutes elles peuvent travailler à côté, ce qui n'était absolument pas possible moi pendant mes études. Oui, elles sont toutes aides-soignantes pendant les 4 ans et travaillent en même temps. Moi, je trouve ça admirable, mais moi, je sais que chez moi, personne ne pouvait faire ça. Et ici, oui, il y en a beaucoup qui... Ah, aussi, les études ici sont beaucoup plus chères par rapport à l'Italie. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que...
Oui, pour financer les études,
exactement. Mais en Italie, dans ces 3 ans, on a beaucoup de stages. On a, il me semble, 1800 heures de stage.
Ah oui.
Donc, c'est... moi, je trouve que ça, c'est très bien. Aussi, pour moi, qui aime beaucoup la partie pratique, ça m'allait bien. On a aussi beaucoup d'examens, beaucoup d'heures de cours, mais... Enfin, c'est 3 ans très, très intensifs, oui.
J'imagine. Et est-ce qu'il y a un stage, une expérience, quelque chose qui t'a marqué ou un domaine vers lequel tu te voyais bien te diriger?
Alors, j'avais beaucoup aimé mon stage en oncologie et hématologie. C'était mon stage de 2e année, il me semble. Et c'est le stage où j'étais restée le plus longtemps. Ça avait duré 3 mois, il me semble. Je faisais le stage le matin. Donc, c'était tous les matins et l'après-midi, on avait cours. C'était très intensif, mais c'était...
Dis donc, c'est un sacré rythme. Le stage le matin et...
C'était juste pendant la période d'été où on avait les stages pendant l'été, tout l'été. On n'a pas de vacances, par exemple, pendant 3 ans parce qu'on a des stages tout l'été. Et donc, les stages d'été, bah, on avait que le stage. Mais alors là, par exemple, on faisait vraiment en Italie, les infirmières en hôpital font vraiment des... L'horaire, c'est matin, après-midi, nuit. Tu fais un repos, le jour suivant, tu es en repos et tu recommences. En général, c'est toujours comme ça. Et
Ah oui, d'accord.
Oui, ça, je sais que c'est pas pareil que la France.
En tout cas, c'est plus rare en France. C'est vrai qu'on a plus souvent une équipe de jour et puis après une équipe de nuit. Quand on est de jour, on fait matin ou soir ou alors en 12 heures. Mais c'est vrai que c'est plus rare de mélanger les cycles, quoi. Donc ça, c'est...
Oui, c'est en Italie, c'est pas, y a pas d'équipe de nuit. En Espagne, oui, c'est plus commun. J'ai entendu pas mal de personnes qui font ça, qui font vraiment que travailler de nuit ou que travailler de jour. Ou après-midi ou matin. Mais en Italie, non, c'est vraiment des rythmes comme ça. Et souvent, le pire, c'est quand t'as matin... Non, quand t'as après-midi et matin, tout de suite après. Tu finis à 9h du soir et tu te réveilles à 5h et tu recommences. Ça, c'est vraiment... Ça, t'as pas de chance quand t'as ce tout.
Moi, j'avais un horaire où je finissais à 22h et je reprenais à 7h le lendemain. C'est très dur. C'est vraiment très dur. C'est vrai. Bon, et alors, une fois le diplôme en poche, toi, tu t'es dit tout de suite, voilà, j'ai envie de tenter l'aventure, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe dans d'autres pays. Est-ce que tu as des détails sur la validité de ce diplôme, donc l'Italie et l'Espagne faisant partie de l'Europe, tu as tout de suite su que le diplôme allait être valable en Espagne, et est-ce que tu as dû faire des équivalences ou des dossiers ou autres pour le faire valider là-bas?
Alors moi, au départ, j'étais pas venue ici pour travailler comme infirmière. J'étais venue pour faire quelques mois pour travailler un petit peu des jobs d'été. Et pour pouvoir un peu me libérer et me récupérer des 3 années très intensives d'infirmière.
Ah oui, t'avais d'autres projets.
Oui. Je m'étais dit, je vais passer un été comme ça pour passer un peu de bon temps en Espagne. Je parlais pas du tout espagnol.
Ok.
C'est vraiment pas un mot. Donc l'idée, c'était vraiment apprendre un petit peu l'espagnol et tout. Et en principe, dans l'idée, c'était de revenir travailler en Italie.
D'accord.
Mais au bout de 3 jours, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup Barcelone. J'ai adoré tout de suite. Mais ce qui a fait que ça m'a un peu ralenti avant de commencer à travailler comme infirmière, parce que je suis arrivée en avril 2016 et j'ai pas commencé à travailler comme infirmière avant janvier et mars 2017.
Ok.
Parce que je parlais pas très bien l'espagnol. Et donc ça me faisait un peu peur, parce que la barrière de la langue dans notre métier, c'est assez important.
Oui, c'est un gros frein. Ouais, c'est sûr.
Et donc, je me sentais pas en confiance pour, surtout aux jeunes diplômés, parce que j'avais jamais travaillé comme infirmière tout de suite, comme premier travail dans un pays où tu parles pas bien la langue, je me sentais pas prête.
Ouais, ça fait beaucoup de défis en même temps.
Exactement. Donc, j'ai repoussé un peu, j'ai trouvé d'abord un travail qui ressemblait un petit peu. Et donc, j'avais pas besoin de faire, l'homologation du diplôme, enfin, Oui, l'homologation, je ne sais pas si on dit
oui,
ça.
Oui, oui, je pense que c'est... Oui, en tout cas, on comprend.
du diplôme d'infirmière, parce que je travaillais pour Europe Assistance faire une révision des factures médicales. Ça m'a permis de faire une immersion complète dans l'espagnol, parce qu'on ne parlait que espagnol là-bas. Donc, en 3 mois, j'ai bien appris l'espagnol. Et après, j'ai répondu à une annonce... pour travailler comme infirmière. On cherchait une infirmière qui parlait français pour une clinique de gynécologie. Et donc là, j'ai répondu, j'ai été tout de suite prise. Et là, donc, j'ai fait mon homologation pour le diplôme. J'ai dû faire un dossier avec tous mes documents originaux italiens que j'ai dû faire traduire par un avocat certifié. Mmh. Tout a dû être traduit en espagnol. Et j'ai dû faire la demande au ministère de la Santé espagnol. Ça a mis pas très longtemps, ça a mis un mois à peu près.
D'accord. Et ces démarches, elles sont payantes? L'avocat, j'imagine que oui, tu dois bien sûr le rémunérer, mais le reste des démarches est payant aussi?
Oui, il y avait une taxe. C'était pas très très cher. Je m'en souviens pas, donc ça m'a pas traumatisé le prix.
ça veut dire que c'est pas des milliers d'euros.
Non. C'est abordable. Puis après, je sais pas si il y a ça en France aussi. J'ai dû m'inscrire à, comme l'ordre des médecins, mais des infirmières.
Oui, exactement. Alors je crois pas que ça soit obligatoire en France, mais en tout cas l'ordre existe.
Ah oui, c'est obligatoire. Ouais. Ça c'est payant, c'est 70 euros. Non, 100. 160 euros par tous les 6 mois.
Ah oui, c'est quand même un bon budget.
T'as la première, l'inscription, qui est à peu près 150 euros. Et après, tous les 6 mois, t'es obligé de payer 160 euros.
D'accord. Pour être dans le répertoire des infirmiers qui exercent en Espagne. Ok.
Enfin, c'est pour chaque ville. Moi, je suis dans celui de Barcelone. Et si tu veux exercer dans une autre ville, il faut que tu changes ton...
Ah oui, ok. Dans c'est pas un fichier national.
Non.
D'accord. Et quand tu parlais d'apprendre l'espagnol, est-ce que tu as pris des cours ou est-ce que le fait d'être immergé au niveau de ton premier emploi avec Europe Assistance, est-ce que pour toi c'était suffisant ou est-ce que tu as suivi des cours à côté?
Alors j'avais fait un petit cours une fois un peu au tout début, 3 semaines, mais ça ne m'a pas servi à grand-chose. Et après, moi je ne suis pas très scolaire, donc moi je ne suis pas trop d'apprendre la grammaire, je marche mieux à l'écoute. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'écoutais beaucoup de films, beaucoup de séries. J'ai essayé de m'immerger assez. Donc, j'écoutais beaucoup. Encore aujourd'hui, il y a encore des mots que tu continues à apprendre quand tu apprends une langue. Et vraiment, j'utilise la technique d'écouter, de répéter le mot dans ma tête, essayer de l'imprimer et après l'utiliser le plus tôt possible. Et quand tu commences à utiliser un mot, ça reste. Et après, il faut savoir se lancer parce que c'est très... C'est pas facile, mais faut tenter.
C'est intimidant, oui. Ouais, j'imagine. Et le fait, est-ce que tu penses que le fait d'être bilingue à la base, donc du coup de déjà jongler entre le français et l'italien, je pense à la maison aussi, est-ce que tu penses que c'est une facilité pour pouvoir apprendre, rajouter une troisième langue? C'est incroyable de dire ça, mais du coup ça fait 3 langues.
Oui, oui. Puis, au début, j'ai aussi l'anglais, mais je le parle moins bien que le français, l'italien et l'espagnol maintenant. mais j'ai jamais vraiment. J'ai un peu honte de dire ça, mais j'ai vraiment jamais eu l'impression d'apprendre une langue. Parce que, utilisant cette technique, c'est pas, et l'immersion dans la culture et être avec les gens, ça aide vachement parce que tu t'en rends pas compte. Donc moi, je pense que le fait d'être bilingue, surtout l'italien et l'espagnol se ressemblent beaucoup. Moi, au début, je tentais, je lançais des mots italiens avec un accent un peu espagnol. Et quand je voyais que ça marchait, je me disais, bon.
Ça a l'air d'aller.
Ce mot, je le rajoute à mon dictionnaire et on verra. Donc j'ai fait beaucoup ça au début et donc je sais que pour les Italiens passer à l'espagnol c'est beaucoup plus facile que pour les Français, mais les Français c'est surtout l'accent
Ils
ont du mal à enlever, mais non, mais l'espagnol c'est vraiment pas une langue très difficile à apprendre, non.
Mais à la fois, le fait d'avoir des similitudes entre l'italien et l'espagnol, j'imagine, peut être une bonne chose. Et puis à la fois, j'imagine plein de petits détails pour dire toujours. Par exemple, on dit « sempre » en italien, « siempre » en espagnol. C'est des petites lettres qui changent comme ça. Du coup, ça doit quand même ça doit complexifier un petit peu l'apprentissage quand même.
Oui, mais quand tu comprends comment ça marche, c'est assez facile. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a des mots qui sont exactement les mêmes, mais qui ont une définition totalement différente.
Ah oui, ça, c'est pas facile.
Et donc ça, oui, au début, tu comprends pas, mais après, tu t'y fais.
Alors, du coup, tu postules pour ce poste dans une clinique de gynécologie, donc privée, à Barcelone, qui recherche des profils d'infirmiers qui parlent parfaitement le français à côté. Mm-hmm. Et est-ce que tu comprends rapidement pour quelles raisons ils demandent ça?
Non, pas du tout. Alors, au début, ils demandent juste une personne. Ils ne demandent pas forcément d'expérience. Et ils demandent une personne, si c'est possible, qui parle le français ou qui parle d'autres langues étrangères.
D'accord.
Et c'est au moment de l'entretien où, quand je fais l'entretien, on me dit que c'est une clinique spécialisée dans les avortements et qui font des avortements. En Espagne, c'est légal... jusqu'à 22 semaines de grossesse. Il y a beaucoup de patientes françaises qui ont dépassé le terme en France et qui donc sont obligées de venir jusqu'en Espagne pour avoir recours à une IVG.
D'accord.
Et donc c'est pour ça qu'ils cherchent beaucoup d'infirmières qui parlent français pour s'occuper de toutes ces patientes françaises.
Ok. Est-ce que toi, tu avais déjà une expérience pendant tes stages avec la gynécologie ou est-ce que c'est un secteur dans lequel tu avais déjà exercé d'une façon ou d'une autre, ou pour toi, c'était vraiment c'était tout nouveau du coup?
Alors, pas du tout. C'était totalement nouveau. Déjà, faut dire que tout ce qui est interruption de grossesse, ça ne s'étudie pas, du moins en Italie. Et donc moi, j'ai débarqué vraiment dans un truc où j'ai tout appris. J'ai vraiment tout appris sur le moment parce que j'y connaissais rien du tout. Enfin, je connaissais la gynécologie, mais tout ce qui est interruption de grossesse, non. Et donc, j'ai vraiment tout appris sur le moment. Les trucs de, les techniques de base d'infirmière sont les mêmes. Enfin, il n'y a pas beaucoup de différence. Ce que j'ai dû apprendre, c'est à faire des échographies.
Ah, d'accord.
Parce que, oui. Au début, j'ai été comme infirmière de bloc. Tout de suite, ça aussi, sans expérience, donc j'ai tout appris, parce que j'avais pas fait de bloc pendant mes stages. La barrière de la langue, c'est un peu difficile. Ce qui est problématique en Espagne aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes d'Amérique latine. Et donc, il y a beaucoup d'accents différents, beaucoup d'espagnols différents qui ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc, à chaque fois que je voyais débarquer un médecin d'Amérique latine qui était d'un autre pays, une fois un Argentin, une fois un Cubain, et j'étais désespérée parce que je comprenais rien. Et donc, parce que toi, t'apprends l'espagnol des Catalans, des Espagnols, et tout de suite, on a un autre qui parle avec un accent totalement différent, qui change les mots. Mais bon, tu t'habitues. C'est possible. Si je l'ai fait, c'est possible.
Quelle immersion.
Oui. J'ai dû apprendre à faire des échographies parce que j'étais dans le bloc. Donc, l'infirmière, pendant l'interruption de grossesse, par aspiration, doit faire une échographie tout le temps le long de l'opération. Et très vite, au bout de 6 mois, étant donné que je parlais français et italien, ils m'ont appris à faire les consultations. Donc, les premières consultations, quand la patiente arrive à la clinique, parce que je pouvais lui faire toutes les questions de... comment on dit ?
Tout l'entretien préalable.
Voilà.
OK.
Donc, je pouvais faire tout ça. En plus, on m'a appris à faire les échographies du deuxième trimestre. Ce qui est plus compliqué, c'est le diamètre bipariétal, qui est un peu plus compliqué à faire, mais on m'a appris à faire ça.
OK.
Donc, c'était beaucoup de responsabilités. Après, j'étais toujours... le chirurgien vérifiait tout le temps avant. Oui, oui, bien sûr.
Oui, mais malgré tout, c'est vrai que ça fait des apprentissages quand même conséquents.
Oui, parce qu'après, quand on voit que tu sais faire quelque chose, alors on te rajoute toujours des responsabilités en plus.
Ah, c'est comme partout.
Oui, oui. Ça, je pense que c'est partout pareil. Bah, les consultations aussi, toute cette partie-là, des antécédents médicaux. Quand tu es infirmière, moi, pendant mes études, on n'apprenait pas, nous, à poser les questions. Et on avait déjà la fiche du patient et c'est important de détecter rapidement ce qui peut être problématique ou non, surtout quand c'est des patientes qui viennent de l'étranger, surtout quand c'est des journées où il y a beaucoup de patientes, t'as pas beaucoup de temps et donc faut que t'apprennes tout de suite à détecter les risques, les potentiels risques, ce qu'il faut contrôler, en quoi t'as besoin de l'avis du médecin.
Eh ben dis donc, t'es toujours dans le même service alors aujourd'hui, 5 ans après.
Non.
T'as changé alors, maintenant.
Oui, non, j'ai changé. Je suis restée 3 ans dans cette première clinique.
OK.
Après, c'est vrai qu'au bout de 3 ans, j'étais dans une clinique où on profitait un petit peu du fait que j'avais ces capacités-là. Et donc, pendant 3 ans, on m'a rajouté beaucoup de responsabilités sans que ce soit rémunéré de la bonne façon, on va dire. Et donc, au bout de 3 ans, j'en ai eu un peu marre. Je me suis dit que j'allais tenter la reproduction assistée. Parce que là aussi, on cherche beaucoup d'infirmières françaises.
Donc là, tout ce qui est procréation médicalement assistée,
exactement.
Les FIV, etc. Alors.
Exactement. Parce que maintenant, il me semble que la PMA est ouverte aux femmes célibataires et aux couples homosexuels en France. Si je suis pas mal informée. Mais jusqu'à l'année dernière, c'était pas encore possible. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de patientes françaises, italiennes encore une fois. Et donc, j'ai été d'abord embauchée dans une première clinique, mais qui voulait vraiment que je m'occupe que des patientes étrangères et que ce soit que un suivi par mail, par téléphone.
D'accord.
Et donc, ça, moi, ça m'intéressait pas.
Ah ouais, c'est un peu,
oui.
C'est un peu frustrant quoi, oui, de survoler tout ça, j'imagine.
Oui, moi j'ai dit que j'étais une jeune infirmière, je me voyais absolument pas faire ça.
Ah bah oui.
Et donc, ils ont accepté de me mettre en salle opératoire, parce que comme j'avais déjà des...
Oui, des qualifications du
exactement,
coup, avec ton expérience.
Ouais. Exactement. Et entre-temps, juste une semaine avant de commencer dans cette nouvelle clinique, j'étais appelée par une autre clinique toujours de PMA, qui m'ont proposé des meilleures conditions, et donc je suis passée dans cette clinique-là. Mais là, je me suis fait un petit peu avoir dans un sens, parce que au début, ils m'avaient promis la même chose, que j'allais être en salle opératoire, que j'allais pas faire que le suivi des patients. Et au bout de 3 semaines, je me suis rendu compte que c'était... En fait, ils voulaient me mettre comme référente d'une équipe d'infirmières qui s'occupait des patientes étrangères, comme j'avais déjà plusieurs langues, que j'avais déjà été responsable d'une équipe dans mon ancienne clinique. Ils ont fait leur travail en même temps. Je vais pas les
blâmer pour ça. Ils ont réussi à te glisser ils avaient besoin de toi.
Exactement. Sans me le dire, mais en essayant, ouais. Ils ont commencé à me former tout de suite dans tout ce qui était patiente étrangère. Donc j'ai vu la chose venir. Et entre temps, j'étais contactée par une gynéco qui travaillait avec moi dans l'ancienne clinique et qui avait donné mon contact à une collègue à elle qui a une autre clinique d'avortement, toujours à Barcelone, et qui cherchait une infirmière, parce que son infirmière avec qui elle travaillait depuis 10 ans partait travailler dans un hôpital. Et donc, j'y suis allée par politesse, parce qu'on avait donné mon nom et mes références, donc je ne me voyais pas y aller.
Maintenant, je vais aller à ce rendez-vous, puis on verra ce que ça donne.
Oui, je me suis dit, bon, voir. Mais j'avais pas vraiment idée de changer tout de suite, parce que ça faisait quand même que 3 semaines que j'étais dans cette nouvelle clinique. Je me voyais pas repartir. Et quand je suis arrivée là, c'est vraiment une plus petite clinique. Dans ce cas-là, ils font des avortements jusqu'à 14 semaines. Donc c'est déjà aussi une charge de travail différente. C'est différent faire jusqu'à 14 semaines que faire jusqu'à 22 semaines. On fait des meilleures conditions, les horaires sont sont fantastiques pour une infirmière, je préfère pas les dire parce que c'est
c'est pas légal. Ça va faire des jaloux.
Oui, vraiment. Et donc j'ai accepté. Donc je suis partie dans cette clinique. Maintenant ça fait 1 an déjà que je suis dans cette nouvelle clinique.
D'accord. Et alors, satisfaite de ce poste?
Ah oui, totalement, parce que c'est en soi, le travail dans cette spécialité-là, j'aime beaucoup. Et c'est vraiment dans cette clinique, on travaille vraiment comme j'aurais rêvé qu'on travaillait dans l'autre clinique. Vraiment, tu peux dédier tout ton temps à la patiente. Je suis la seule infirmière. Donc vraiment, j'ai des responsabilités, mais qui sont très bien reconnues. J'ai une très bonne relation avec tous les médecins. J'ai des responsabilités, mais qui sont bien connues et même mon travail en soi, il est reconnu. Et je peux vraiment toute la partie déontologique et toute la partie humaine que moi j'avais besoin d'avoir dans la première clinique, surtout sur ce thème qui sont les interruptions de grossesse, ça s'est révélé être exactement l'endroit où j'aurais rêvé de travailler si je pouvais continuer dans ça. Donc oui, je suis ravie.
Et psychologiquement, c'est pas trop lourd d'être dans un service comme celui-ci où on accompagne des femmes, des couples vers des interruptions de grossesse. Comment tu le vis, ça?
Alors oui, c'est pas facile. Je vais plutôt parler dans la clinique où je suis maintenant. La chose positive, c'est qu'on est une petite équipe et on parle beaucoup entre nous. On arrive beaucoup à analyser toutes les situations parce que, bien sûr, chaque situation est singulière. Chaque femme aborde pour une raison spécifique à elle, pour son choix. Mmh. Donc, chacune a ses raisons. Mais toi, toute la journée, t'écoutes plusieurs raisons et donc plusieurs histoires différentes.
C'est ça, c'est lourd, hein. Oui.
Oui. Mais je pense que le fait que qu'on soit une équipe très soudée, et qu'on puisse en parler, et après, ce qui balaye tout dans entre guillemets. Mais c'est vraiment quand tu ressens le bien que tu fais à la patiente. Et je trouve que notre métier, il est souvent ingrat et on n'est souvent pas très bien reconnu, parfois comme infirmière et comme professionnelle de santé. Et alors, dans mon cas précis, c'est... en fait, tu aides, tu donnes une solution à une personne qui est dans une situation de désespoir la plupart du temps. Tu solutionnes un problème pour elle et donc t'es tout de suite remerciée. Et puis c'est des patientes que tu vois dans un certain moment où ils ont vraiment besoin de quelqu'un et donc toi t'es obligée de donner le mieux de toi-même et c'est très bien, enfin pas tout le temps. Après, il y a toujours des situations les conflictuelles qui sont pas faciles. Tout n'est pas rose, absolument.
Mais du coup, c'est un côté quand même valorisant de pouvoir prodiguer ses soins d'une bonne façon et d'avoir la sensation d'accompagner correctement ces femmes qui, elles, sont dans un parcours qui est de toute façon difficile, quel que soit le contexte pour lequel elles arrivent. Mais,
oui, exactement.
J'imagine que c'est valorisant.
Oui, t'as une réponse tout de suite. Je sais pas comment l'expliquer, mais la femme te renvoie tout de suite le bien que tu lui as fait. Je fais pas ce travail que pour ça forcément, mais non, ça aide à surpasser beaucoup d'autres choses qui sont plus négatives et plus difficiles.
Des sentiments plus difficiles,
exactement.
Bien sûr. Et est-ce que je sais pas, quand tu parles de ton travail à des amis en Espagne, est-ce que c'est un sujet qui est tabou, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose dont on parle assez librement, voilà, le fait que des patientes d'autres pays viennent en Espagne pour des avortements?
Alors non, il y a un grand tabou partout, en
partout,
Espagne,
ouais,
en Italie. Ouais. Par exemple, moi, mes copines italiennes avec qui j'ai fait mes études d'infirmière me posent jamais de questions sur mon travail, jamais, jamais. Et alors que moi, je leur pose toujours beaucoup de questions parce qu'on fait le même métier, donc moi, je suis intéressée à savoir, elles, comment elles travaillent dans
Bien
des
sûr.
Hôpitaux. Mais moi, non, on me pose jamais de questions et en général, on veut... Bah, tout le monde voit que la partie négative, personne ne comprend pourquoi j'aime ce métier, pourquoi ça fait déjà plusieurs années que je me dédie à ça et je me vois très bien rester là-dedans plusieurs années encore. Mais non, c'est un grand tabou. Et pour les patientes même, c'est un grand tabou parce qu'elles n'ont pas d'informations et pas de...
Oui, c'est des parcours qui sont de toute façon compliqués. Ouais.
Oui.
Sans aucune transition, tout à l'heure, tu parlais de reconnaissance. Et moi, je me demandais sur l'aspect financier, quel était le statut d'un infirmier, d'une infirmière en Espagne. En France, c'est une profession qui est mal rémunérée. Comment ça se passe en Espagne?
Alors, il me semble que c'est à peu près pareil qu'en France, si je me trompe pas. C'est pas très bien rémunéré de base. Et il me semble que moi, par exemple, je vais dire mon cas particulier. Moi, au début, quand j'étais embauchée, j'étais à 1300 euros par mois pour 30 heures. Et après, je suis passée à 40 heures, j'étais à 1006. Et en moyenne, je sais que dans les hôpitaux publics, les infirmières gagnent un peu mieux, genre autour de 1800 euros, plus les gardes, plus toutes
les primes.
Les primes, exactement.
Ok.
Moi, j'ai pu bien négocier mon salaire actuel parce que on voulait...
On venait te chercher.
Voilà, exactement. Donc, j'ai réussi à bien négocier, donc je ne me plains pas du tout de mon salaire, mais... Pour une infirmière, c'est pas un salaire démesuré,
j'imagine,
mais pour une infirmière, je trouve ça correct.
Plus confortable que la moyenne, quoi.
Exactement.
Ok. Donc pas de regrets alors sur ce choix d'expatriation.
Non, pas du tout.
Juste après le diplôme, est-ce que tu as des conseils à donner peut-être à des infirmiers, alors probablement français du coup, francophones en tout cas, s'ils écoutent ce podcast et qui souhaiteraient venir. S'installer en Espagne.
Bah, y a beaucoup de travail. Enfin, après, c'est effectivement des rôles, des cliniques spécifiées, des trucs précis où on cherche des personnes avec le français comme langue. En général, avoir des langues, en général plusieurs langues ou une langue étrangère, ça aide toujours beaucoup, moi, je trouve. Ça ouvre toujours beaucoup de portes. Moi, j'ai pas eu de mal à m'intégrer, j'ai pas eu de mal, je trouve que surtout les infirmières italiennes et françaises, je pense qu'on est vues un peu de la même façon parce qu'on sait qu'on a une bonne formation des deux côtés. Je trouve ça assez facile de venir s'installer en Espagne. Puis après, à Barcelone, moi, j'adore le climat, les gens, tout.
T'as jamais ressenti de rejet de la part de personnes qui te voyaient peut-être d'un mauvais œil ou, je sais pas, qui avait peut-être une haine envers les étrangers. Je sais que pour certains pays, ça peut être le cas. On peut être mal reçu. Toi, tu n'as jamais ressenti ça?
Bon, alors, c'est vrai que on n'aime pas beaucoup les Français en général, ni en Italie, ni en Espagne. Moi, quand je suis arrivée ici, j'ai détecté un peu ça, donc je me présentais toujours comme italienne. Jusqu'au moment où je devais donner mon nom de famille, alors là, ça marchait plus, mais...
Ah, zut, alors.
Bon, rejet, non, mais après, moi, je suis habituée parce que j'ai grandi en Italie où en Italie, on n'aime pas beaucoup les Français non plus. Donc, je suis habituée à ça. Après, faut faire attention à qui tu te... par qui tu t'entoures. Ici, il y a beaucoup, par exemple, à Barcelone. Après, c'est pas du tout... Barcelone, c'est un cas spécial. C'est pas toute l'Espagne. Toute l'Espagne n'est pas pareille. Mm-hmm. Mais à Barcelone, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup d'étrangers. Donc, même dans toutes les cliniques où j'ai travaillé, enfin, dans les trois cliniques où j'ai travaillé, il y avait toujours beaucoup d'étrangers. J'étais pas la seule infirmière étrangère. Donc ça aussi, ça joue...
C'est plus facile peut-être beaucoup pour s'intégrer. Mmh, mmh. Merci pour ce partage d'expérience. Et puis alors, cette triple vision, je trouve ça fascinant, quoi, que t'es sauté le pas, que t'arrives dans un pays dans lequel tu ne parles pas la langue, même si tu as des facilités. Je trouve que c'est admirable comme parcours. Et puis, t'as l'air très heureuse dans ce que tu fais. Donc, c'était la bonne décision.
Oui. Merci beaucoup.
On va finir avec le petit portrait chinois pour apprendre à te connaître encore mieux. Alors, la première question, si tu avais une baguette magique, quel outil voudrais-tu inventer pour t'aider dans ta pratique?
Alors, je vais revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Ça serait enlever tout le tabou qu'il y a autour des interruptions de grossesse. Mmh. Parce que ce qui est le plus difficile... vraiment pour moi et pour les personnes qui travaillent dans ce domaine-là, c'est recevoir des patientes qui sont terrorisées, qui ont, enfin, autre que la situation en soi est difficile, les idées reçues qu'on a sur l'acte médical, l'opération qui est l'avortement, c'est vraiment un truc qui ne reflète pas du tout la réalité. Et donc, c'est vraiment un travail aussi de les rassurer tout le temps. Il faut beaucoup les rassurer. Mmh. Et tu le vois après, parce qu'après que l'opération s'est faite, tout le monde dit « Ah, mais c'était juste ça. » Après, il y a toute la partie émotionnelle. Ça, c'est forcément
différent.
Qui sera
de toute façon difficile à gérer.
Mais déjà, si on pourrait enlever le tabou et pouvoir donner des vraies informations et que la patiente puisse enlever le poids au moins d'avoir une peur terrible de ce qui va se passer pendant l'opération, comme si... On a beaucoup, enfin, c'est une opération quelconque en soi. Si tu penses à la technique
opératoire, oui.
La technique opératoire, je parle. Enfin, je dis que ça. Donc pour moi, ça serait très. Si j'avais une baguette magique, j'en profiterais.
Bon, lever le voile sur tout ça.
Oui.
La question suivante, la phrase que tu prononces le plus au quotidien dans ton travail. Alors du coup, je veux bien l'entendre en espagnol, moi.
J'avais pensé à la date de tes dernières règles, qu'on dit la fecha de tu última regla. Mais je dis beaucoup aussi en français, c'est fini, tout s'est bien passé, quand c'est des patientes françaises. Et pour l'anecdote, tout le monde dans la clinique sait toujours dire ça. C'est fini, tout s'est bien passé. Ils savent rien dire en français, mais tous les anesthésistes, les gynécos, c'est fini, tout s'est bien passé.
Oh, c'est adorable.
Une fois qu'ils apprennent, tout le monde répète la même chose. Mais après, parfois, la patiente se réveille un peu de l'anesthésie, commence à parler en français, donc tout le monde est...
Exactement.
Donc tout le monde dit, Zoé, viens.
On sait dire que c'est fini. Parce que la suite, on connaît pas.
Exactement, on peut pas.
C'est ça. La question suivante, si tu étais un médicament, lequel serais-tu?
Ah, ça aussi, j'y réfléchis un peu. Je dirais, en ce moment, c'est l'éphédrine. Je ne sais pas si on utilise beaucoup ça, mais
si.
Quand il y a des chutes de tension, c'est ce qui me sauve tout le temps. J'ai toujours de l'éphédrine et du sérum physiologique.
Oui, c'est ça. Très bien.
Toujours partout, dans la clinique, au cas où j'en ai besoin.
Et donc éphédrine ça se dit éphédrine aussi en espagnol.
Éphédrine.
Oui. Ah oui, ok. Oui, c'est un médicament d'urgence.
Exactement.
question suivante, plutôt thé ou café?
Café. Absolument.
question suivante, plutôt crocs ou basket?
Crocs.
Question suivante, plutôt 10 ans dans le même lieu d'exercice ou 10 lieux d'exercice en un an?
Moi, quand je faisais mes études, je ne comprenais pas les infirmières qui travaillaient 50 ans dans le même service. Je trouvais ça hallucinant.
Moi aussi, c'est vrai.
Je me disais toujours, mais c'est pas possible, mais t'as pas envie de voir autre chose.
Il y a tellement de choses à faire, qu'est-ce qu'elles font tout le temps, même endroit, pendant des années, comme ça. Ouais, c'est vrai, hein.
Vraiment ça, je me disais, mais c'est pas possible, il y a plein de services, il y a plein de trucs à voir, tu pourrais changer.
Ouais.
Mais c'est vrai que maintenant que je suis dans cette spécialité-là,
pour le moment, ça te convient
pour l'instant, bien. Pour l'instant, oui, ça me convient et je suis très contente comme ça.
Et la dernière question, si tu n'avais pas exercé le métier d'infirmière, vers quelles études ou vers quel métier te serais-tu orientée? Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé au début de l'épisode, mais souvent je demande qu'est-ce que tu avais envie de faire peut-être quand tu étais petite, ou est-ce que infirmière c'était une nouvelle orientation, ou voilà, j'ai envie d'en savoir plus.
Alors moi, c'était pas du tout. Enfin, c'est venu très soudainement l'envie d'être infirmière. Au départ, je voulais être psychologue. J'avais fait le concours pour rentrer en université de psychologie et j'avais pas été acceptée la première fois. Et donc, j'ai fait une année où j'ai un peu commencé des études en éducation, je sais plus trop qu'est-ce que c'était, un truc qui avait pas grand-chose à voir. Et entre-temps, je me suis rendu compte que psychologie, c'était beaucoup d'années d'études. Et à l'inverse, infirmière, il y avait beaucoup de parties pratiques, c'était 3 ans. Et c'était moins de temps sur les livres, sur les...
Enfin, c'était
un truc un peu plus dynamique. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, j'ai préparé le test, parce qu'en Italie, il faut faire un concours pour rentrer. Et puis vraiment, ça a été la révélation quand j'ai commencé mes études, quand j'ai fait le premier stage. Je me suis dit...
Pas de regrets, je suis faite, je suis là où
exactement.
Il faut.
C'est pour ça que c'est très difficile pour moi maintenant de penser à un autre travail. Je pense que je serais repartie sur psychologie, qui d'ailleurs dans mon travail actuel, il y a une grande partie de suivi psychologique. Et donc ça combine un petit peu les deux choses.
C'est ce que j'allais te dire, du coup, voilà, il n'y a pas de hasard. Tu vois,
oui, voilà, exactement.
Hein, c'est rigolo. Bon, un grand merci Zoé.
Merci à toi Marielle.
Moi je parle absolument pas espagnol, je peux juste dire muchas gracias.
De nada.
C'est tout ce que je sais dire. Mais merci beaucoup pour ces explications, c'était génial de connaître ton parcours et puis je suis contente aussi qu'on ait pu lever le voile sur ce que tu fais et puis pouvoir parler plus librement de ces services qui sont très très importants pour les femmes. Donc un grand merci Zoé.
Merci à toi pour cette occasion de m'avoir donné la parole un peu sur ce thème-là, ça me tenait beaucoup à cœur. Donc je te remercie.
Merci Zoé, à bientôt.
Au revoir.
Merci beaucoup à Zoé pour ce récit passionnant. Elle est la preuve que le métier d'infirmier peut être exercé partout et que chaque pays a beaucoup à nous offrir, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Si vous exercez un métier médical ou paramédical à l'étranger, je serai ravie de vous avoir à mon micro. Vous pouvez me contacter par mail, l'adresse est en description de cet épisode, ou encore sur Instagram par message privé @compressesparadrap.podcast. À très bientôt pour un prochain épisode.